Tocati.
Bonsoir. Désertion d'un nombre important de soldats appartenant à la 8e région militaire dans le Nord Kivu. Cela s'est passé au début et à la fin de la semaine passée à Rwindi, Kanyabayonga et Mweso dans le Masisi. Les militaires déserteurs, composés en majorité des Congolais rwandophones, refusent le brassage au sein d'une même armée. Quelles sont les raisons de ce départ? Où se trouvent actuellement ces soldats? Et quelles peuvent être les conséquences de cette désertion? Vous aurez la réponse avec nos invités de ce soir. Il s'agit du professeur Ndesho de l'Université de Kinshasa, rwandophone et membre du RCD, premier vice-président de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale. L'honorable Henri Mukachungu, député membre du PPRD à l'Assemblée nationale et deuxième vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Enfin, le colonel à la retraite Jacques Ibinga, expert militaire.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Mais tout d'abord, rendons-nous à Goma, dans le Nord Kivu, où notre confrère Jean-Paul Basila nous fait le point sur ce qui s'est réellement passé. Bonsoir Jean-Paul Basila. Bonsoir Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul n'est pas en ligne. Nous allons tout de suite commencer, avant de passer la parole à nos invités, nous allons tout de suite commencer avec nos questions. Il y a M. Bahati, c'est-à-dire les questions de nos auditeurs. Il y a M. Bahati qui nous envoie un SMS du Nord Kivu. Ça, c'est une opinion. Nous pensons que les déserteurs agissent de concert avec certains politiciens du Nord Kivu. Nos invités auront à y réagir. Il y a aussi M. Jules de Goma dans le Nord Kivu qui nous envoie aussi un SMS à tous les invités. Et ça, c'est une question. Pourquoi seulement une fuite d'un bataillon rwandophone? Ne trouvez-vous pas là une prise de conscience? Voilà. Il y a aussi M. Mirugin Nestor de Kisangani dans la province orientale qui nous écrit également par SMS. La question s'adresse directement au professeur Ndesho. Quels sont selon vous les mobiles de cette désertion? Avez-vous un message fort susceptible à convaincre les déserteurs? Il y a aussi M. Dani Chilembi qui nous écrit à partir de Bunia dans la province orientale. Il nous envoie un SMS donc à tous les invités. Il dit ceci, le déploiement massif des militaires de Goma n'est-il pas un moyen d'exposer la région du Nord Kivu qui est très fragile en matière sécuritaire de l'exposer à l'étranger? Et puis une autre question s'adresse au professeur Ndesho. Ces déserteurs sont-ils armés? C'est une question. D'abord, nous commençons par la première question adressée au professeur Ndesho. Quels sont, selon vous, les mobiles de cette désertion? Avez-vous un message fort susceptible à convaincre les déserteurs? Je ne sais pas si ça viendra réellement de vous, ce message.
Oui, merci, cours de 15. Je pense que il faut parler avec qui réserve, dans la mesure où, n'est-ce pas, c'est l'information brute. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent, n'est-ce pas, la désertion?
Parce que ce sont des militaires ex-ANC, c'est-à-dire du RCD.
Il faut d'abord qu'on ait l'information exacte pour savoir si réellement il y a des désertions. Personnellement, je n'ai pas l'information exacte. Même à lisant les journaux, vous savez que il y a beaucoup, beaucoup d'hallucinations, mais en même temps, beaucoup de présupposés. On n'est pas sûr de l'information. Alors, s'il y a des élections, je crois qu'il n'y a que les chefs militaires qui peuvent, les chefs militaires politiques, bien sûr, qui peuvent nous dire exactement pourquoi il y a des élections. Parce que quand vous lisez dans les journaux, ils vous disent, n'est-ce pas, que ces soldats se sont évaporés pratiquement dans la nature, qu'on ne sait pas où ils se trouvent. De même, n'est-ce pas, que les informations sont extrêmement contradictoires. Par conséquent, je pense que quand on n'a pas la bonne information, il est difficile de savoir le pourquoi, n'est-ce pas, l'événement s'est passé.
Voilà. Et une autre question qui vous est également adressée par M. Teddy de Matadi dans le Bas-Congo. Ces déserteurs sont-ils armés?
C'est extrêmement difficile à savoir. Écoutez, s'ils sont déserté, il par ailleurs dit qu'ils ont des armées, leurs collègues qui ont refusé d'être désertés. J'imagine qu'ils doivent être armés. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'on ait l'information. Vous savez, moi je suis un homme de science, il est difficile que je croie, si vous voulez, à tous les bobards qui circulent. C'est possible, mais lorsque nous aurons le recul, il sera possible de pouvoir donner, n'est-ce pas, la vie exacte de ce qui s'est passé.
Voilà, notre confrère Jean-Paul Bacilla est maintenant en ligne. Bonsoir Jean-Paul Bacilla.
Bonsoir Claude.
Voilà, vous êtes notre correspondant à Goma dans le Nord Kivu. Depuis quand le début de la... Excusez-moi, à quand datent exactement ces désertions?
Claude, c'est depuis le début de la semaine dernière que le 53e bataillon, qui était basé à Burungu, près de Mwesso, en territoire de Masisi, a déserté de sa position. Et ce bataillon, composé essentiellement des soldats d'expression Kinyarwanda, et sous le commandement du major Innocent Kabundi, lui-même n'étant pas originaire du coin.
Alors, où s'était-il dirigé, ce bataillon?
La direction prise par ces bataillons n'est pas connue jusque-là.
Où sont signalées d'autres désertions alors?
D'autres désertions sont signalées au sein de deux bataillons mixtes qui étaient chargés de sécuriser l'axe Ruindi-Kanyabayonga. Ces deux bataillons sont composés d'éléments ex-ANC, ou la branche armée de l'ancien mouvement rebelle RCD Goma, et ceux des ex-APC, ou l'armée de l'ancien mouvement rebelle RCD KML. Donc, dans ces deux bataillons, ce sont également les militaires d'expression Kinyarwanda qui ont fait désertion, avec à leur tête le capitaine Mouima, qui est commandant en second du second bataillon mixte.
Et à combien est estimé le nombre total des militaires qui ont déserté?
Nous n'avons aucune précision en termes de chiffres. Une précision que nous avons est que l'effectif des troupes fournies par et les ex-APC et les ex-ANC pour composer ces deux bataillons mixtes était de proportion équitable, c'est-à-dire 50% pour chaque partie. Et comme la désertion concerne les ex-ANC, il faut considérer que c'est la moitié de ces deux bataillons qui a déserté. Et les dernières informations d'ailleurs que nous avons reçues aujourd'hui pendant la journée, dont font état également des mouvements vers le Grand Nord de certains éléments ex-APC aussi.
Et quelle direction prennent ces militaires après avoir déserté leur position?
La direction prise par le 53e bataillon n'est pas connue jusque-là. Pour les déserteurs des deux bataillons mixtes, ils ont été aperçus d'abord à Luofu, et ensuite à Miriki, deux localités qui avoisinent presque la cité des Kanyabayonga. Pour le moment, il n'y a aucune information sur leur destination finale.
Selon vous, Jean-Paul Bacilla, qu'est-ce qui serait à la base de ces déversions?
Bon, nous pouvons évoquer au moins trois raisons pouvant expliquer ces désertions. D'abord, la première raison, elle n'est pas du tout nouvelle. Et il y a ces refus d'accepter le brassage. Donc, la plupart de ces militaires ont adhéré au métier d'armes par nécessité de pouvoir sécuriser d'abord leur village. Donc, pour eux, s'éloigner de leur village, c'est abandonner les leurs à la merci des autres. Et il y a aussi certains notables congolais d'expression Kinyarwanda qui, de temps en temps, font passer un tel message à ses troupes et ça passe. La seconde hypothèse est liée à la manière dont l'ensemble des soldats ex-ANC de la 8e région militaire est traité par la hiérarchie militaire à Kinshasa. Donc, à titre d'exemple, le soldat des deux bataillons mixtes issus de l'ex-APC, donc venus de Lubero et Beni, perçoivent une solde qui correspond à leur grade. Tandis que ceux issus des ex-ANC, avec qui ils travaillent ensemble, donc des officiers supérieurs aux soldats des rangs, tout le monde perçoit un forfait de 5 150 francs congolais par mois. Et pourtant, ils font tous partie de la même région militaire, la 8e, et c'est une situation qui a créé un malaise au sein de ces deux bataillons mixtes.
Et cette situation ne se justifie pas par le fait que l'effectif des ex-ANC n'est pas bien maîtrisé par la hiérarchie militaire?
Pour le moment, non, car il y a 2 mois, une commission d'identification a visité l'ensemble de la 8e région militaire et l'effectif est maintenant connu, c'est environ 30 000 hommes. D'autres informations signalent d'ailleurs que malgré la fin des opérations des recensements auprès de la 8e région militaire, les dernières soldes envoyées de Kinshasa ne pouvaient payer que 19 000 hommes. Et d'ailleurs, la 12e brigade qui est basée à Rutshuru aurait refusé de percevoir ses forfaits des 5 150 francs qui ne s'est pas distingué les officiers supérieurs de leurs soldats des rangs. Et donc, pour vous dire que les problèmes demeurent entiers.
Voilà. Et le troisième, la troisième hypothèse?
La troisième raison qui pourrait expliquer ces désertions, il y a cette coïncidence, nous appelons ça coïncidence, c'est-à-dire ces désertions s'effectuent simultanément au moment où un communiqué signé par le général Laurent Kunda, qui menace de répandre les hostilités contre les gouvernements, circule. Donc ces communiqués datent du 25 août dernier. Et le même général Laurent Kunda, il y a des habitants de la localité de Kichanga, toujours dans le massif, qui signalent sa présence là-bas. Donc voilà un peu les trois raisons qui pourraient justifier ces désertions.
Il y a aussi le ministre de la Défense, Adolphe Onosomba, qui était à Goma. Et comment interprète-t-il ces désertions?
Nous l'avons contacté pendant la journée. Il a simplifié la question en évoquant le problème d'encadrement. Et je préfère d'ailleurs qu'on l'écoute.
Le cas de désertion, je crois que c'est un problème d'encadrement. Il faut admettre que lorsque la FDL est venue, chaque militaire avait un traitement de 100 dollars par mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'établir sur comment donner une ration de 45 dollars avec une solde de 20 dollars et 2 dollars de soins de santé pour un début. Ça ne fait pas 100 dollars. Et aujourd'hui, si c'était la vérité, l'idéal. Mais il y a aussi un élément qui demande qu'il faut comprendre que même si on doit parler de rétablir la situation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais nous ne voulons pas que cela soit une excuse où les choses vont aller plus longtemps que prévu. Sinon, nous mettons les gens dans une routine, dans une habitude où on risque de faire de ça un mode de vie.
Et Jean-Paul Bassila, que dit le commandant de la 8e région militaire à ce sujet, le général Amissi?
Pas grand-chose, Claude. Il confirme qu'il y a réellement désertion, mais il ne fait aucun commentaire là-dessus. Hein. Donc, il semble que sa hiérarchie lui aurait interdit d'aborder cette question avec les journalistes.
Voilà, merci beaucoup Jean-Paul Bassila, mais tu restes encore en ligne car vous pourrez intervenir de temps en temps. Quelques réactions face à cette désertion. Peut-être allons d'abord à Lubumbashi. Excusez-moi, on a M. Henri Mukachungu qui est député PPRD, nous l'avons en ligne depuis Lubumbashi. Votre réaction, il semble que le problème d'ordre salarial, également, c'est-à-dire lié à la solde de militaires, pourrait être aussi à la base de cette désertion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas égalité de traitement entre les militaires ex-ANC et ex-APC qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que deuxième vice-président de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale?
Merci, monsieur. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est une triste nouvelle pour le Congolais. C'est une triste nouvelle pour la communauté internationale qui est en train de déployer les efforts pour nous aider à sortir de notre crise. Je dois vous dire que moi-même, j'ai été militaire. Moi-même, j'ai commandé des fonds militaires. J'ai fait la sécurité militaire. Eh bien, si dans mes unités, une situation comme ça se présentait, la première chose que je ferais, c'est de mettre mes agents de la sécurité militaire pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui en est la cause. Ça, c'est la première préoccupation. Mais si nous prenons les arguments qui sont avancés par-ci, par-là, le paiement des 100 dollars du moment de l'AFDL, le paiement des 40 dollars maintenant, mais on peut se poser la question, alors les RCD le payaient combien? Parce que l'AFDL le payait 100 dollars.
Non, mais dans le reportage de notre confrère Jean-Paul Bassila, il dit que les soldats ex-ANC sont moins bien traités que les autres militaires. Est-ce que vous avez été militaire et vous êtes le deuxième vice-président de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale? Est-ce que cela se justifie?
Cela ne peut pas se justifier, mais je veux vous dire ceci, monsieur. Les militaires, aujourd'hui, après les négociations de Front City, les militaires tous appartiennent à la structure de l'état-major général. Et au sein de cet état-major général, il y a aussi bien les officiers de l'ancienne FED, de l'ancien gouvernement, de l'ancien MLC, de l'ancien, toutes ces parties, ces entités qui avaient des forces combattantes, eh bien, ils sont à l'état-major général. Je vois très mal, parce que tous ces officiers de l'état-major général siègent ensemble, je vois très mal comment est-ce qu'on peut tirer un montant pour payer des militaires de l'ex, je sais pas moi, RCD, MLC, et un autre montant pour payer les militaires des autres factions. Ça, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça dans une gestion de l'armée qui est faite par des officiers qui proviennent de toutes les composantes, comme vous le savez. Donc ça, vraiment, si c'est la vérité, c'est une chose qui serait vraiment déplorable.
Voilà. Nous donc, allons... rapidement, oui. Nous allons donner d'abord, nous allons aussi donner la parole au docteur Ebenga, expert militaire. Docteur Ebenga, vous avez été militaire, mais est-ce que ça peut se justifier qu'au sein d'une seule armée, que certains militaires soient payés moins bien que les autres? Est-ce que ça peut se justifier? Est-ce que ça peut aussi conduire à ce genre de désertion que nous connaissons aujourd'hui?
Oui, non seulement j'ai été militaire, j'ai été conseiller à la défense, donc j'ai eu une vision assez globale des choses qui se font au niveau de l'administration de la paix de l'armée aussi. Effectivement, ce genre de situation où il y a des traitements, je crois, à géométrie variable au sein de l'armée, sont déplorables. Je suis étonné de constater que cela persiste. J'ai eu accès à des documents de paye de l'armée.
Vous voulez dire, quand vous dites que cela persiste, c'est-à-dire que quand vous étiez militaire, on assistait également...
Non, pas du tout. Pas du tout à cette époque-là, non. Là, on était payé selon le grade. Et il y avait des primes de fonction et tout le reste. Mais je parle ici d'une situation qui est prévalue il y a 2 ans. J'ai eu accès à certains documents de paye de l'armée où les militaires de l'ex-gouvernement étaient payés selon leur grade, tandis que tous les autres étaient payés de manière forfaitaire.
Est-ce que ça a changé maintenant?
Mais je suis étonné que cela n'ait pas changé 2 ans après. Je croyais que cela avait évolué. Apparemment, non. Et cela peut être une source de frustration considérable d'avoir des unités soi-disant brassées, mais pour ce qui est de la paye, nous avons là des régimes de paye différents. Cela est suffisamment frustrant et je crois que quand on veut voir dans tout cela une connotation ethnique, c'est une explication, c'est vrai, mais on remarque que quelque part, par exemple, le colonel Innocent Kibongi, par exemple, il n'est pas rwandophone, mais il a pris la tête d'une unité qui est partie. Donc c'est pour dire qu'il y a d'autres motivations qu'ethniques, éventuellement, qui ont pu également justifier cette désertion, si on peut appeler ça comme ça.
Mais vraiment, est-ce que ça justifie que des militaires décident tout d'un coup, au lieu de s'adresser à leur hiérarchie militaire pour arranger la situation, ils décident de partir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre motivation?
Vous savez, qu'il s'agisse de désertion, qu'il s'agisse de pillage, comme on a vu à Mbandaka et ailleurs, ou à Lissalé ailleurs, la motivation, la démotivation, en quelque sorte, à l'exercice de la carrière militaire existe par le fait qu'il y a des injustices au sein de l'armée. Il y a des paiements qui ne parviennent pas aux militaires. Tout cela démotive fortement les militaires. De là, dire que cela soit acceptable, certainement non. Mais en tout cas, on peut également comprendre que les gens excédés, parfois, aient à des excès comme cela.
Voilà, professeur Andéchaud, vous êtes rwandophone et membre du RCD. Vous êtes le premier vice-président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Nous avons là une question de M. Jules qui nous a écrit de Goma par SMS. Il dit ceci, pourquoi seulement une fuite d'un bataillon rwandophone? Ne trouvez-vous pas là une prise de conscience? C'est ce qu'il écrit.
Vous savez, la situation est très confuse. Hein. Je crois que c'est la chose qu'il faut admettre. C'est que la situation est extrêmement confuse. Et toutes les explications que je viens d'entendre ne sont pas logiques. Hein. Il y a d'abord des assertions qui ne rencontrent pas du tout, si vous voulez, n'est-ce pas, la logique simple, hein, même des propositions. Alors, on constate effectivement qu'il y a des discriminations, mais d'autres raisons qui peuvent s'expliquer dans la mesure, n'est-ce pas, où cette armée de l'ANC, n'est-ce pas, et qui, comment dirais-je, a été brassée, et qui est commandé par d'autres qui ne sont pas rwandophones. En fait, c'est tout aussi, parce que ce terme de rwandophone, finalement, crée aussi de la confusion. Et donc, il y a des raisons qui sont objectives, qui expliquent comment il y a eu des élections. J'ai écouté, moi, la situation, les explications, et je pense qu'il faudrait plutôt approfondir la situation. tant au niveau, n'est-ce pas, du commandement militaire qu'au niveau politique. Et pour chose, parce que vous savez que longtemps, et ici, on se pose la question, comment l'argent, les soldes des militaires sont détournés. Donc tout cela peut s'expliquer, mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'on ne sait pas où ces déserteurs sont partis, s'orientent vers où, sont-ils armés, que font-ils, n'est-ce pas, vers quel...
On a parlé de Lofu dans les...
Lofu, je m'en viens à la situation, n'est-ce pas. Il parle de Burungu, c'est tout près de Masisi. Donc je ne comprends pas vraiment que toute une région militaire ne sache pas où se trouvent, n'est-ce pas, des déserteurs. Pourquoi il y a des désertions? Comment résoudre ces problèmes-là? Comment rassurer, n'est-ce pas, ces militaires-là? Et il me semble finalement que nous allons aboutir à une sorte, si vous voulez, n'est-ce pas, de diabolisation, encore une fois d'exclusion, en disant que les déserteurs, c'est simplement une tribu, ou je ne sais pas, alors que finalement il y a des problèmes qui sont dans l'armée, qu'il faudrait, n'est-ce pas, prendre à bras le corps pour pouvoir trouver des solutions objectives, et dans la mesure, n'est-ce pas, où nous sommes en train de former une armée, et, n'est-ce pas, pour la République. Alors, dire que cela ne peut pas se passer parce que, effectivement, nous avons une seule armée, non, parce que nous savons quelles sont les questions qui se posent au niveau de l'armée. Et même ces questions sont posées en rapport avec les élections. On s'est dit, est-ce que les élections sont possibles dans la mesure, n'est-ce pas, où l'armée n'est pas encore, n'est-ce pas, formée. Nous n'avons pas encore une armée républicaine.
Mais donc, professeur, est-ce qu'il y a eu une signification particulière dès lors qu'il se dirige vers Masisi, le territoire de Masisi, Lofu par exemple? Est-ce qu'il y a eu une signification particulière ou bien il y a une raison particulière qu'ils ne prennent pas une autre direction, c'est-à-dire la direction de l'ouest d'autres provinces situées au centre ou à l'ouest du pays, mais qui se dirigent vers Masisi.
Raisonnablement, permets-moi de douter que ce soit la direction que prennent les électeurs.
Pourquoi?
Parce qu'ils vont à l'ouest, n'est-ce pas? Donc, ils vont à l'ouest, ils s'en vont où? Ils s'en vont à Kisangani, ils s'en vont vers quelle direction? Ensuite, où se trouve maintenant l'armée, si vous voulez, n'est-ce pas, les commandements militaires de la région? Comment il n'y a pas, n'est-ce pas, disons, la responsabilité, je ne comprends pas. Hein, je comprends pas la
justement, nous avons tenté d'avoir aussi comme invité le général Amissi, comme l'a dit notre confrère Jean-Paul Basila, mais il semble qu'il n'a pas voulu parler en disant qu'ils ont reçu de la hiérarchie, des ordres pour ne pas parler. Docteur Ebenga, est-ce que vous pensez qu'il y a une raison particulière que ces militaires ne se dirigent pas peut-être vers le centre du pays ou l'est du pays, mais plutôt vers les montagnes de Massif, c'est-à-dire vers le territoire de Masisi?
Bon, écoutez, je crois qu'ils sont d'abord originaires de là. Il est probable qu'ils rentrent vers chez eux. Donc, ils refusent, en fait, en quelque sorte, l'intégration à l'armée et ils se démobilisent eux-mêmes, si on peut dire ainsi, en rentrant chez eux. Mais ils rentreraient avec armes et effets militaires, c'est ça qui pourrait être inquiétant.
Oui,
donc là, comme a dit l'honorable, et je crois comme a dit le vice-président qui est à Lubumbashi, la région militaire, le commandement a obligation d'éclairer, de connaître la situation de ces gens. Ils sont armés comment et comment récupérer ces armes et comment éventuellement sanctionner cette désertion. Mais le fait d'aller vers Masisi ne doit pas forcément être interprété qu'ils rentrent là-bas parce qu'ils ils iraient constituer une autre armée. Ils rentreraient chez eux par suite des frustrations, c'est vrai, mais en tout cas, on peut expliquer ça par plusieurs manières, mais il faut quand même suivre ça de très près pour que ça ne constitue pas à nouveau un foyer de guérilla locale là-bas.
Henri Mukachungu, vous êtes député membre du PPRD et deuxième vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. La loi portant organisation de l'armée a déjà été adoptée. Mais comment se fait-il que la hiérarchie militaire de la 8e région militaire ne s'est pas, au fait, localiser ces militaires qui ont fait désertion?
Oui, effectivement, monsieur, c'est une préoccupation, c'est une question que je me pose aussi, parce que dans une gestion normale de l'armée, je crois que le processus lui-même, d'abord, si nous le prenons tel qu'il a été défini à Sun City, la gestion de l'armée durant cette période, si vous lisez les mémorandums, si vous lisez les résolutions, eh bien, ce processus est confié aux institutions de la transition. On ne dit pas qu'il est confié à l'exécutif, on dit qu'il est confié aux institutions. C'est pour cela qu'il existe au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement, une commission défense et sécurité. C'est justement pour pouvoir accompagner ce processus et pouvoir, à temps opportun, intervenir pour mettre fin à certaines anomalies. Parce que j'apprends, par exemple, maintenant, qu'il y a ce paiement sélectif, ce paiement injuste de militaires. Certains reçoivent un montant, d'autres reçoivent un autre montant. Bon, mais nous ne savons pas quelles sont les raisons qui justifie ce traitement, distinct.
Mais je me dis que la loi portant organisation et fonctionnement de l'armée qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle s'applique déjà concrètement dans le fonctionnement actuel de l'armée? Parce que ce genre de problème devrait être en principe réglé par cette loi.
Oui, mais monsieur, vous savez que la loi a déjà été promulguée. À partir du moment où la loi est promulguée, eh bien, elle doit être en application.
Mais comment se fait-il qu'il y ait quand même cette dissonance?
S'il vous plaît?
Comment se fait-il qu'il y ait un traitement de faveur différent par rapport les uns par rapport aux autres, alors que cette loi portant fonctionnement et organisation de l'armée s'applique déjà?
Eh bien, si ça existe réellement, ce sont des anomalies. Ce sont des anomalies qui, normalement, devraient être dénoncées. Et une fois dénoncées, eh bien, la Commission de défense et sécurité du Parlement devait prendre ses responsabilités pour interpeller le ministre de la Défense qui est responsable de cette... Enfin, qui doit expliquer au Parlement cette situation. Mais vous voyez, on en parle comme si c'était normal, on en parle, les gens disent, voilà, on paye les gens comme ça, on les paye. Mais on trouve ça normal. Ce n'est pas normal parce qu'il y a une loi qui oriente un traitement qui doit être donné à tous les militaires qui font partie de l'armée nationale congolaise, sans tenir compte de leurs origines. Vous comprenez? Bon, ça c'est une considération. L'autre considération, monsieur, vous comprenez que c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre que des militaires sous le commandement d'un officier qui, parce que quoi, on dit qu'il n'est pas originaire de là, eh bien, décident eux-mêmes de quitter leur garnison pour partir. Militairement, c'est quelque chose d'inconcevable, parce que ça, c'est un acte d'indiscipline, c'est un acte qui est punissable. Mais, justement, c'est ce que je disais. Il faut qu'il y ait le service de la sécurité militaire qui soit efficace pour pouvoir, à temps opportun, détecter tous les comportements, tous les petits, les petites manœuvres au sein des troupes, et pouvoir alors conduire les troupes selon une discipline qui est bien celle qui est définie par les autorités supérieures.
Mais apparemment, la loi n'a pas réglé cette loi sur l'organisation de l'armée. Apparemment, elle n'a pas réglé ou résolu les problèmes d'une certaine désorganisation constatée jusqu'à présent au niveau de l'armée nationale.
Oui, mais cette désorganisation, elle n'est pas due à la loi.
C'est-à-dire, elle est due à la non-application de la loi.
Des composantes qui géraient ces hommes en armes. Il faut que chaque composante soit conséquente avec sa signature qu'elle a apposée aux documents et qui ont sanctionné le dialogue.
Oui, oui, docteur Rebira.
Il faut que chaque composante comprenne qu'elle est devenue politique, elle n'est plus militaire, et que les militaires, par contre, doivent rester sous les ordres des officiers de l'armée intégrée. Ces officiers proviennent de toutes les composantes et entités.
Docteur Ebenga, avant d'intervenir, mais donc, à entendre les propos de l'honorable Henri Mukachungu, on a l'impression que les composantes qui affirment haut et fort qu'elles n'ont plus de branches armées continuent à manipuler les hommes qui étaient sous leur commandement pendant la rébellion ou pendant la guerre.
Oui, il y a ça, certainement, il y a ce volet politique de la chose, mais je voudrais rester encore dans l'axe administratif et légal. La loi qui a été votée était une loi organique, c'est-à-dire qu'elle donne les grands axes de l'organisation de l'armée. Mais il faut encore que des mesures d'application soient prises. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les procédures administratives de l'armée doivent également être révisées et faire l'objet de certaines mesures réglementaires. Il y a même le code de discipline militaire qui doit être actualisé. Vous avez des tas d'autres documents qui doivent découler de cette loi qui ne sont toujours pas adoptés. Le statut même du militaire congolais, aujourd'hui, il est régi par quel statut? Puisque la loi dit qu'il faut un nouveau statut. Mais qui pense aujourd'hui à mettre en place une structure pour monter et réaliser cette volonté du législateur?
Et pourquoi justement on ne définit pas ce statut?
Mais il y a tout ce retard-là. Depuis la loi a été votée à la fin de l'année dernière, il n'y a plus aucune initiative d'organisation qui entre dans l'application de la loi. Ce n'est pas fait. Comment voulez-vous que les commandants d'unité ou encore les administrations militaires puissent travailler, organiser les choses quand ils n'ont pas reçu les directives organisationnelles qui découlent de la loi? Voilà.
Et cette loi organique doit être élaborée par qui?
La loi organique doit être élaborée.
Sur le statut du militaire.
Mais évidemment, il faut encore qu'il y ait un projet que le gouvernement soumette au Parlement. C'est une loi, les statuts de l'armée. Il y avait un statut commun avec les fonctionnaires civils, mais ce statut ne convient pas à l'armée. Il faut donc un statut spécial des militaires qui n'est toujours pas adopté. Et dans ce statut-là, il y a le barème même des militaires qui est décidé. L'indice des salaires de chaque grade est indiqué. Tout cela n'est pas fait. Donc on tâtonne, on fait un peu les choses comme ça d'une manière embrouillée, et il en découle des situations de désordre.
Voilà, professeur Ndécho, vous êtes deuxième vice-président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Le gouvernement vous a-t-il déjà soumis à un projet de loi sur le statut du militaire?
Nous n'avons pas traité de cette question, mais je voudrais ajouter quand même ceci, qu'il y a ces incohérences qui sont très visibles, des idéalismes qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas, que finalement, il n'y ait pas de responsabilité au niveau de l'armée.
Et quel genre d'incohérence?
Incohérence, par exemple, n'est-ce pas, la discrimination entre militaires, la reconnaissance précisément à pouvoir, n'est-ce pas, jouer si les forces, n'est-ce pas, centripèdes. Donc, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on dénonce beaucoup de malaises au sein de l'armée, notamment, n'est-ce pas, la sourde, mais qu'il n'y a aucune solution. On ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, qu'un pays qui cherche une solution à résoudre les problèmes, un pays pose des conflits, ne résolve pas ses problèmes, n'est-ce pas, des militaires, parce que c'est la question primordiale. Et donc, je pense que la situation est tellement confuse qu'aujourd'hui, personne ne peut vous expliquer. Même les chefs, si vous voulez, les chefs, les responsables politiques et militaires, n'est-ce pas, de la région, sont incapables de vous dire aujourd'hui où se trouvent les déserteurs. C'est quand même pas 10, n'est-ce pas, 100.
Mais ce sont des bataillons.
Ce sont des bataillons. Donc on devrait savoir, n'est-ce pas, où se trouvent. Comment des militaires comme ça, plus de 1000, peuvent se volatiliser dans la nature, dans une région, n'est-ce pas, où nous avons une armée? Je ne peux pas comprendre. Ce que je crois, moi, ma conviction, c'est peut-être une sorte de... Disons, je déduis que finalement, l'information n'est pas exacte, que la situation n'est pas connue, que de toute façon, l'on cherche probablement à lancer, si vous voulez, n'est-ce pas, comment dirais-je...
Non, mais les faits sont là, l'information a été confirmée par le commandant de la 8e région militaire.
Oui, mais les faits... Alors, comment il ne parvient pas à savoir exactement vers quels horizons se dirige, n'est-ce pas, ces déserteurs?
Voilà. Exactement. C'est peut-être une question qu'on aurait dû poser au commandant de la 8e région militaire s'il avait accepté de participer à cette émission. Malheureusement, il ne s'est pas montré disponible. Mais est-ce que vous pensez, comme l'avait dit dans mon entretien avec mon confrère Jean-Paul Bassila, qui est notre correspondant à Goma, est-ce que vous pensez que le dernier communiqué de presse de Laurent Kunda, qui était de votre composante RCD, voilà, qui dit qu'il est prêt à entamer une autre guerre pour renverser les institutions actuelles et mettre en place les institutions à caractère inclusif et qui vont amener la réconciliation nationale, est-ce que ces militaires, à majorité rwandophone, n'ont pas répondu à l'appel lancé par Laurent Kunda, qui est également rwandophone?
D'abord, je condamne cette déclaration, si c'était la chose. Ensuite, n'est-ce pas, c'était hors la loi, nous le savons. Donc, personne ne le contrôle.
Oui, mais non encore déchu de son grade de général. Le colonel Ebengava nous répond à cette question. Oui, terminé.
Sans doute, je voudrais terminer. Je voudrais dire, de toute façon, il y a quelque chose d'incohérent. Il y a une incohérence que je ne comprends pas à la base de tout ça. Comment peut-on lancer une nouvelle aussi catastrophique, c'est vraiment de la catastrophe, si cela devait arriver, sans avoir tous les éléments? Et comment toute une république ne peut pas chercher les éléments pour pouvoir faire comprendre et ensuite donner la bonne information? Nous sommes en train de spéculer combien, ce qu'est la brigade, ce qu'est le bataillon, ou qui cessons, etc. Mais donc, nous sommes sur des
dispositions. Nous ne spéculons pas puisque les faits sont là, reconnus par l'autorité militaire qui est en charge de la 8e région militaire. Le commandant, le général Amissi, il a accepté ces faits. Il a dit que ces faits sont vrais, mais il n'a peut-être pas donné tous les détails dont on a besoin.
Mais je voudrais qu'il nous dise précisément, c'est qui, parce qu'ils sont connus aussi, c'est qui? Ils sont
Ce sont les militaires du 1er bataillon, du 2e bataillon et du 53e bataillon, composés en majorité des soldats rwandophones.
Alors, où sont-ils?
Voilà, ça c'est une
question. Où sont-ils? Donc la région militaire n'est pas contrôlée. Elle échappe complètement, n'est-ce pas, à la sagacité et à l'administration de l'armée. Vous comprenez que quand même quelqu'un de bonne foi ne peut pas accepter comme ça. N'est-ce pas? Vous n'allez pas me faire avaler la couleuvre en disant véritablement on ne sait pas où ils sont. C'est la forêt équatoriale, par conséquent, ils sont disparus, personne ne parvient à les trouver, mais enfin.
Oui, et docteur Ebinga, avant de répondre à la question sur Laurent Kunda, mais on a l'impression, comme vient de le dire le professeur Ndesho, que l'armée n'est pas du tout bien contrôlée ou bien structurée, la hiérarchie militaire n'a pas encore la main mise sur tous ces éléments qui évoluent de façon peut-être disparate à travers tout le pays ou peut-être précisément dans le Nord Kivu.
Oui, écoutez, l'intégration de l'armée n'est pas un fait instantané et momentané, c'est un processus. Il est vrai que ce n'est pas en un jour que cela se ferait, qu'au fur et à mesure, je crois que l'intégration se fait. Mais à mon sens, elle se fait sans doute très lentement et pour plusieurs raisons. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a, comme je l'ai dit, le volet légal et juridique qui n'est pas soigné. Ça, c'est sans doute un problème. Je parlais ici de code de discipline militaire. L'intégration même des militaires, vous parlez de général Kunda, tout ça, pour moi, ce n'est pas un militaire de phare d'essai.
Il n'a jamais été déçu de son grade de
chef. Il n'a jamais été ni prêté serment comme général. Il a refusé de venir. Il a refusé de prendre le commandement. Il a été militaire de l'ex-ANC.
Mais il signe encore comme général des phare d'essai.
Il signe quoi? Quel document il signe? Où? Là où il est, en exil?
C'est communiqué.
Oh, mais c'est communiqué, il peut le signer, vous savez, je peux me faire ce que je veux, mais c'est pas pour autant que nous devons le prendre pour un général de FARDC. C'est un déserteur de l'ex-armée, du RCD pour moi, qui n'a jamais intégré l'armée nationale, parce qu'il faut qu'on se le dise. On ne doit pas mettre tout le monde obligatoirement l'armée nationale. Ceux qui n'ont pas voulu intégrer l'armée nationale se sont auto-démobilisés, ce sont donc des civils. Donc, il faut le traiter comme...
Donc, vous voulez dire que les militaires rwandophones qui ont déserté n'ont pas choisi véritablement de l'armée, mais ils ont été quelque part forcés, c'est ce
non,
que vous voulez dire?
Ceux qui... Écoutez, il faut savoir, la motivation pour laquelle ils avaient pris les armes, c'était laquelle? De défendre un lopin de terre donné pour des raisons que vous connaissez. Est-ce qu'ils avaient la volonté d'intégrer l'armée nationale? Ce n'est pas évident. Donc, dans ce cas-là, on aurait dû leur poser la question, est-ce que vous êtes membre de l'armée nationale ou vous êtes des protecteurs d'une certaine ère du pays? S'ils disent nous ne sommes pas l'armée nationale, donc ils doivent être démobilisés, désarmés, être démobilisés et rendus à la vie civile. Mais on les a laissés là comme des gens qui protégeaient un territoire donné, tout en croyant qu'ils étaient l'armée nationale ou on leur faisait croire cela, mais en ne les payant pas comme membre de l'armée nationale, ça fait plusieurs incohérences dans le jeu.
Voilà. Honorable Henri Mukachungu, je rappelle que vous êtes député membre du PPRD et deuxième vice-président de la commission défense nationale au sein de l'Assemblée nationale. Quelles pourraient être, d'après vous, les conséquences d'une telle situation, alors que l'opération d'enrôlement, d'identification d'enrôlement des électeurs a déjà commencé dans le Nord Kivu. Est-ce que ça pourrait perturber cette opération, d'après vous?
Tout à fait. Vous savez, monsieur, que c'est une préoccupation de tous les Congolais de savoir si les conditions de sécurité seront suffisamment créées pour qu'on puisse aller librement aux élections. Mais s'il y a des nouvelles de ces gens, où un groupe de militaires disparaît dans la nature, on ne sait pas où ces militaires vont se situer après un certain nombre de jours. Vous voyez que tout ce processus d'intégration de l'armée nationale congolaise est plein d'incohérences, comme vous pouvez remarquer. Les incohérences du genre d'un général qu'on nomme, il ne vient pas prêter serment, on laisse des troupes à sa disposition, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Ce général se déplace du nord Kivu vers le sud Kivu sans qu'il soit intercepté et les services de sécurité de l'armée nationale fonctionnent. Donc vous voyez, c'est vraiment des situations qui ne sont que spécifiques, caractéristiques de la RDC, de la crise de la RDC. Mais il faut à tout prix qu'on arrive à mettre fin à ce genre de situation parce que ça n'honore pas le pays. Il y a un commandant à la tête de la région militaire. Ce commandant a en charge la gestion de tous les personnels militaires. S'il y a des plaintes, s'il y a des gens qui sont mécontents, eh bien c'est à ce commandant de pouvoir les transmettre au niveau supérieur. Ce n'est pas un militaire ou un groupe de militaires qui peuvent se décider de déserter, de prendre une destination inconnue. C'est réellement une préoccupation, ça va bouleverser, ça va d'abord désanimer les électeurs.
Exactement, Henri Moukachung, mais professeur Andécho, vous êtes membre du RCD, mais c'est vraiment bizarre que certains événements troubles qui interviennent notamment à l'est du pays avec Laurent Kunda, Moutéboussi, et aujourd'hui ce sont des soldats rwandophones, congolais rwandophones, ex-RCD, c'est quand même trop, vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre que ça vienne tout le temps des anciens, de l'ancienne branche armée du RCD, tous ces troubles.
Ce qui m'étonne dans les explications concernant cet événement de désertion, qui est un événement grave, n'est-ce pas, dans l'armée, c'est que finalement, on suppose que c'est le RCD qui provoque et qui dirige, n'est-ce pas, ces mouvements de désertion.
Mais ce sont des anciens membres de votre branche armée, c'est ça. Oui. Laurent Kunda, Moutéboussi, aujourd'hui, ce sont des soldats rwandophones qui étaient pourtant, qui faisaient pourtant partie de l'armée nationale.
Nous sommes dans la troisième année, n'est-ce pas? Et dans la troisième année où finalement toutes les armées sont censées avoir, n'est-ce pas, rejoint un seul commandement. Bon, alors, le colonel, n'est-ce pas, l'expert en matière nous a dit que finalement ça doit aller lentement. Mais je pense tout de même que vous ne pouvez pas supposer qu'aujourd'hui, c'est le RCD qui, provoque toutes ces affaires. Nous avons le RCD, n'est-ce pas, à dénoncer de manière expresse, n'est-ce pas, ces situations. Kunda, qui sait où il est. Donc, moi, je pense tout simplement, nous sommes dans une situation qu'on ne parvient pas, si vous voulez, n'est-ce pas, à maîtriser. Mais qui ne maîtrise cette situation qu'on ne parvient pas à maîtriser? Et puis, deuxièmement, ça ne se passe pas qu'au nord qui vous. C'est pas vrai du tout. Alors, mais qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, du Haut-Zaïre?
La province orientale.
Qu'est-ce que vous pensez?
Mais il y a quand même des questions de nos auditeurs de Bounia, qui n'a pas donné son nom. C'est une opinion. Le RCD avait crié fort pour le brassage et quand on le fait, ses adeptes démissionnent. Quelle contradiction. Il y a aussi l'opinion de Bahati, du Nord Kivu, qui nous écrit par SMS. Nous pensons que les déserteurs agissent de concert avec certains politiciens du Nord Kivu. Docteur Ebenga, le mot de la fin à vous. Est-ce que les conséquences, qu'est-ce qu'elles peuvent être?
Il faut
rapidement, 30 secondes.
Oui, la discrimination de l'armée est une source de mauvais comportement pour les militaires. Il faut éviter toute discrimination. On va déjà ôter cela, quitte à ce que les autres paramètres politiques puissent être corrigés.
Voilà, c'était le mot de la fin avec le docteur Ebenga. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée et à demain pour notre édition de Dialogue en Congolais.
Okapi, okapi.